questions éthiques.
Oui, il y a des questions éthiques, mais il y a aussi des questions de sens. Je vais y revenir. Par exemple, je vais essayer de décrire comment les scientifiques voient l'histoire de l'univers. Alors, on voit, par exemple, que l'univers a une histoire. Hein, donc, on voit que petit à petit, les systèmes se constituent et que, quelque part, au bout de 15 milliards d'années, quelque part sur un astre apparaît une structure complexe qui est capable de réfléchir, etc. Mais alors, le physicien, le biologiste décrivent ça. Mais le philosophe va se poser la question, quel est le sens de cette histoire? Est-ce que c'est simplement un mouvement aléatoire qui ne va dans aucune direction et qui n'a aucune... Ou bien y a-t-il en dessous de cette histoire un sens profond? Donc ça, c'est une question de sens. C'est pas immédiatement une question de valeur ou éthique. C'est plutôt la question de savoir quelle est la réalité profonde qui sous-tend toute cette histoire. D'accord? Ça, ce serait une question de sens. Donc la science suscite inévitablement des questions de sens, des questions de fondement. Pourquoi les mathématiques réussissent-elles? Wigner, un prix Nobel de physique en 1960, écrivait un article intitulé « The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences », hein, l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature. Ça fonctionne extraordinairement dans les sciences de la nature. Pas toujours dans les sciences humaines, hein, mais dans les sciences de la nature, ça réussit bien. Mais pourquoi? Ça, le physicien va dire, ben, j'applique, ça marche. Pourquoi? Ça, c'est une question de fondement. Quelle est la raison profonde qui donne aux mathématiques une telle efficacité ou une telle inefficacité dans certains domaines? Parce que, par exemple, la dernière crise boursière est aussi liée au fait qu'un certain nombre de modèles qui calculent les risques financiers se sont cassés la figure. Donc, pourquoi ça réussit dans certains domaines? Pourquoi ça ne réussit pas dans certains domaines? La psychologie humaine, c'est très difficile de l'expliquer mathématiquement. Hein, si je fais comme ça maintenant, est-ce qu'il y a un modèle mathématique qui explique pourquoi, en 2011, un être bizarre venu de Belgique, pour donner un module à Philanthropos, a fait ça? Est-ce qu'il y a un modèle mathématique qui explique ça? Sens, fondement, interrogation sur les limites et les portées, et la portée du sens, valeur. Donc, on pourrait dire ici, ce sont des questions, on pourrait dire, éthiques, épistémologiques, et peut-être métaphysiques. Parce que métaphysique, vous avez vu ce que ça voulait dire, hein, le préfixe méta qui veut dire au-delà, par-delà, hein, ou après, et physis qui veut dire la nature. Donc au-delà de ce qui est, dans le fond, expérimentable, observable. Bon, c'est pas la nature au sens de la philosophie d'Aristote, mais nature au sens de, par exemple, on pourrait regarder les choses, expérimenter. C'est ce qui est par-delà la nature, si vous voulez. Donc, question métaphysique, mais en deux mots. Ce n'est pas français, mais c'est philosophique. Hein, méta-physique. Question qui vont au-delà de la physis, au-delà de ce qui est vu. D'accord? Question épistémologique, parce que épistémologie, c'est une réflexion sur la connaissance, épistémé, c'est le savoir. Question éthique, donc question morale, question sur l'évaluation en termes de bien et de mal, de comportement, par exemple. Ok? Oui?
Dans les définitions que la séparation de la forme de science et de philosophie, toutes les sciences humaines, politiques,
historiques, oui. Alors, tout dépend, oui, ça c'est une bonne question épistémologique, hein, où doit-on faire rentrer les sciences humaines? Bon, dans la mesure où les sciences humaines pourraient faire l'objet d'une expérimentation ou d'une observation, elles entrent dans le champ proprement scientifique. Le problème, c'est que, c'est déjà en partie un peu vrai dans les sciences de la nature, c'est que la construction des théories est souvent influencée par des choses qui ne sont pas théoriques. Je vais le montrer en cosmologie, par exemple. Mais c'est clair qu'une théorie économique est souvent basée sur des a priori philosophiques. Et donc la distinction dans les sciences humaines est parfois difficile à faire, puisqu'on mêle des questions de sens et des questions purement empiriques. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Donc il faudrait... C'est pour ça que les sciences humaines sont plus compliquées à traiter. Moi, je ne suis pas capable de le faire, puisque ce n'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que là, le démêlé entre philosophie et science est beaucoup plus difficile à faire. Oui, oui, mais quand j'appelais... Oui, oui, c'est ça. Hein. Mais quand j'appelais vraiment empirique au sens des sciences de la nature, je voulais dire ce qui est conditionné par une observation rigoureuse avec des standards d'observation et d'expérimentation. Bon. Alors, maintenant, simplement un mot ici avant de terminer. Pour ce qui est de la théologie au sens d'un discours rationnel, je ne parle pas ni de la foi, ni de la religion, je parle de la théologie, c'est-à-dire un discours rationnel portant sur les questions de Dieu, théos, hein, théos et logos. Hein. La théologie, c'est un ensemble de discours qui vise à clarifier, à élucider, à résoudre une question de sens, les questions de sens, de fondement et aussi de valeur. Alors on pourrait dire, mais alors il n'y a pas de différence avec la philosophie. Sauf que, la philosophie puise à tout le champ de l'expérience humaine et de la rationalité humaine, la théologie aussi, mais elle a une source supplémentaire d'information, pourrait-on dire, qui est la révélation, donc qu'elle admet dans la foi. Donc la théologie admet qu'un certain nombre d'informations importantes concernant le sens, le fondement, les valeurs, etc., sont transmises via une source qui est admise dans la foi, dans la confiance. Nous admettons que la tradition biblique, que la Bible et l'enseignement magistériel constituent une base que nous acceptons dans la confiance et dont nous allons tenir compte pour construire un discours cohérent sur des questions de sens, de fondement et de valeur. Maintenant, remarquez que ce n'est pas joué d'avance. On pourrait très bien se trouver dans une tradition religieuse dans laquelle l'information qui m'est donnée par une révélation orale ou écrite entre en complète contradiction avec la raison ou avec les données des sciences. D'accord ? Il n'est absolument pas joué d'avance que la tradition ou l'information religieuse, dans une tradition donnée, devrait être immédiatement cohérent avec l'image que nous donnent les sciences de l'univers, ou bien même la raison. Je dis, c'est peut-être, je ne veux pas vous choquer en disant mon gros animal martien qui mange du chocolat, etc., et qui vous a engendré, mais on pourrait très bien se retrouver par hasard dans une tradition religieuse qui dit des choses, je ne sais pas moi, imaginons qu'une tradition religieuse se base sur ce genre de considérations-là. Et puis, à un certain moment, vous réfléchissez, vous entrez à l'université, vous êtes ici à Philanthropos et vous vous rendez compte qu'on vous parle tout autrement de l'histoire de l'univers, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de martiens sur Mars qui mangent du chocolat. Il y a peut-être de la vie sur Mars, mais il n'y a pas de chocolat. Ça, je peux vous dire. Et s'il y en a, ça a été amené par les satellites ou par les robots qui ont peut-être pris un morceau de Bounty ou de Twix qui est traîné dans le laboratoire et qui l'a amené sur Mars. Mais il n'y a pas de chocolat sur Mars. Et vous, depuis votre enfance, vous croyez qu'il y a des martiens qui mangent du chocolat sur Mars, etc., parce que votre tradition religieuse vous l'a dit. Et vous découvrez que ça ne marche pas. Attention, il n'est pas dit que ça doit marcher. Et tout l'enjeu d'un cours comme celui-ci, comme tout l'enjeu de la pertinence du catholicisme au niveau de l'intelligibilité de la foi, c'est de montrer quelque chose qui n'est pas a priori évident, c'est que « nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest hein? ». Maybe is it possible to translate this in French hein? Donc, il faut que je réfléchisse. Donc, c'est dans le Concile Vatican I, la constitution Dei Filius. Elle dit ceci. Hein? Donc, « nulla unquam inter fidem et rationem ». Donc, jamais entre la raison et la foi, il ne peut y avoir de véritable dissension.